sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mercredi 24 août 2024. Avec vous, Eric Manelakiza, voici d'abord le sommaire. Au Tchad, reprise aujourd'hui des travaux du dialogue national inclusif. L'Angola a voté pour des élections législatives qui décideront du prochain président. Reprise des combats entre rebelles tigréens et armée éthiopienne. En Ukraine, jour de l'indépendance sous tension après 6 mois d'invasion par la Russie. Washington annonce une nouvelle aide militaire de près de 3 milliards de dollars. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Début cet après-midi des travaux du dialogue national inclusif au Tchad en présence de délégués de l'opposition civile, de groupes armés et de la junte au pouvoir. La séance de ce mercredi a ensuite été suspendue et les participants se retrouvent demain jeudi. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les travaux devaient démarrer hier mardi, mais ont encore été repoussés d'une journée pour des raisons d'organisation, selon le porte-parole du gouvernement. Quelques 1400 délégués, membres de syndicats, de partis politiques et de la junte au pouvoir se réuniront pendant 21 jours pour discuter de la réforme des institutions et d'une nouvelle constitution qui sera ensuite soumise à référendum. Mais avec l'absence remarquée d'importants groupes armés et d'opposants, ce dialogue qui devait initialement se tenir en février a été repoussé plusieurs fois, s'ouvre moins de 2 semaines après la signature à Doha d'un accord entre la junte tchadienne et une quarantaine de groupes rebelles. Cette semaine sera consacrée à l'adoption d'un règlement intérieur, a déclaré Saleh Kebzabo, ancien candidat à la présidentielle et membre du comité d'organisation. Les travaux dans les commissions, qui ont notamment pour thème les questions sociales, la paix et la réconciliation nationale, ou bien encore les libertés fondamentales, doivent débuter le 30 août. Selon la junte, ce dialogue doit déboucher sur des élections libres et démocratiques et le transfert du pouvoir aux civils.
Un forum initié par la junte au pouvoir en Guinée pour surmonter les divisions d'un passé troublé a recommandé mercredi d'accélérer la tenue des procès pour les violences politiques des dernières décennies et d'instituer une commission vérité. Le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, a promis d'accorder une attention bienveillante aux 45 recommandations soumises par les coprésidents du comité national des assises lors d'une cérémonie à Conakry. En Angola, 14,7 millions d'électeurs étaient appelés à voter aujourd'hui lors d'élections législatives qui décideront du prochain président. Un scrutin annoncé comme le plus serré de l'histoire du pays entre le parti au pouvoir depuis l'indépendance et une opposition qui promet d'enrayer pauvreté et corruption. Les bureaux de vote vides ont commencé à fermer avant l'heure officielle de fin du scrutin fixée à 17h en temps universel. Le dépouillement a immédiatement commencé. Jacques Aristide.
Le chef de l'État sortant, João Lourenço, 68 ans, brigue un second mandat. Son mouvement populaire pour la libération de l'Angola, ancien parti unique tout puissant, est à la tête du pays depuis 47 ans. Dans la matinée, João Lourenço a déposé son bulletin dans une université de Luanda. Le général à la retraite a promis la victoire de la démocratie. L'opposition, elle, s'estime revigorée ces dernières années par son leader, Adalberto Costa Junior, 60 ans. Il dirige l'UNITA, ancien mouvement nationaliste rebelle, devenu parti. C'est un jour historique, a déclaré l'opposant après avoir voté. Il a mené sa campagne sur des promesses de réforme, de lutte contre la pauvreté et contre la corruption. L'Angola, pays riche en ressources naturelles, est confronté à l'inflation galopante, à la sécheresse sévère, au chômage et à la vie chère. 8 coalitions croisent le fer. Le candidat du parti vainqueur aux législatives sera investi chef de l'État. Les résultats sont attendus dans quelques jours, mais le délai peut être allongé en cas de contestation.
Les détenus continuent de s'entasser dans des conditions déplorables dans les prisons de RDC. Ont protesté mercredi à Kinshasa des organisations congolaises de défense des droits humains. Selon un rapport réalisé par la Fondation Bill Clinton pour la paix en collaboration avec le collectif des ONG des droits de l'homme, certains détenus dorment sur le sol et dans les douches, voire debout. La prison centrale de Makala compte environ 10 000 détenus, dont les trois quarts ne sont pas encore condamnés. Elle a été construite sous la colonisation belge pour 1 500 prisonniers maximum, ont indiqué ces ONG. Des centaines de manifestants vêtus de rouge ont défilé mercredi vers le bâtiment présidentiel sud-africain à Pretoria lors d'une grève nationale à l'appel du plus grand syndicat du pays pour dénoncer la hausse du coût de la vie et les coupures d'électricité. Les manifestants ont bloqué les routes de la capitale sud-africaine et demandent au gouvernement d'empêcher un effondrement de l'économie et dénoncent la hausse de l'inflation. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a affirmé mercredi avoir obtenu une promesse de coopération totale de Khartoum dans le dossier du conflit du Darfour, vaste région de l'Ouest et du Soudan. Les violences ont fait environ 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Selon les Nations Unies, le procureur de la CPI a souligné l'importance d'enquêtes indépendantes et crédibles. Les États-Unis ont appelé mercredi le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens à retourner à la table des négociations afin de mettre fin à la reprise des combats, soulignant qu'une trêve de 5 mois avait permis de sauver d'innombrables vies. Des combats ont repris mercredi dans le nord de l'Éthiopie, dans des zones frontalières de la région du Tigré. Rebelles tigréens et le gouvernement fédéral se rejetant la responsabilité d'avoir brisé une trêve observée depuis 5 mois. Le point avec Claire Mangibour.
Les forces fédérales éthiopiennes ont lancé une offensive tôt ce matin. « Nous défendons nos positions », a déclaré Getachew Reda, un porte-parole des rebelles, qui a évoqué sur Twitter une offensive à grande échelle sur le front sud du Tigré. Le gouvernement éthiopien a répondu en affirmant que ce sont les rebelles qui ont lancé une attaque ce matin, les accusant d'avoir rompu la trêve. L'armée éthiopienne a annoncé avoir abattu un avion chargé d'armes destiné aux rebelles du Tigré, rapporte l'agence de presse éthiopienne officielle ENA. L'avion qui a violé notre espace aérien depuis le Soudan et qui visait à fournir des armes aux groupes terroristes a été abattu, affirme l'agence ENA, qui cite le général Tesfaye Ayalou, qui n'a pas précisé l'origine de l'appareil ni la date à laquelle il a été abattu. La région du Tigré est coupée du reste du pays et il est impossible de vérifier les affirmations de chaque camp. Ces combats sont les premiers signalés depuis la trêve conclue fin mars et qui a été largement respectée par les deux camps.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La commémoration de l'indépendance de l'Ukraine coïncide avec l'anniversaire des 6 mois de l'invasion russe. Le président Zelensky a assuré que son pays se battrait jusqu'au bout pour reconquérir tout son territoire. Le président américain a annoncé une nouvelle aide de près de 3 milliards de dollars à l'Ukraine. Michel Joseph.
Nous allons nous battre jusqu'au bout, a déclaré le chef de l'État ukrainien, précisant qu'il s'agira d'une bataille pour l'Ukraine tout entière. Depuis le 24 février, après 6 mois de guerre et des dizaines de milliers de morts, l'anniversaire de l'indépendance acquise en 1991 en se séparant de l'Union soviétique n'a pas donné lieu à des festivités. Les autorités de Kiev, la capitale, ont interdit tout rassemblement public de lundi à jeudi. Dans le nord-est aussi, le gouverneur de la région de Kharkiv a ordonné un couvre-feu de mardi soir à jeudi matin. Le président américain Joe Biden a annoncé une nouvelle aide militaire de près de 3 milliards de dollars à l'Ukraine pour lui permettre d'acquérir des systèmes de défense aérienne, de l'artillerie, des munitions et des radars, a précisé M. Biden dans un communiqué. Nous ne reconnaîtrons aucune tentative de changement de statut de quelque partie de l'Ukraine que ce soit, a affirmé pour sa part Olaf Scholz, le chancelier allemand dont le pays va livrer à Kiev près de 500 millions d'euros de nouveaux armements.
Les États-Unis ont répondu mercredi à un plan européen soumis également aux Iraniens, ravivant l'espoir d'un retour à l'accord historique sur le programme nucléaire iranien de 2015, dont l'ancien président Donald Trump s'était retiré. Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, n'a donné aucune précision sur le contenu de la réponse américaine, ni sur d'éventuelles concessions de la part des États-Unis. De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé avoir reçu une réponse des États-Unis concernant les ajustements requis par Téhéran à la proposition d'accord soumise par l'Union européenne sur le dossier nucléaire iranien. Israël mène une offensive de dernière minute pour tenter de convaincre les Occidentaux de ne pas renouveler cet accord. Vous suivez Le Monde d'aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez Nathalie Barge pour la Minute Éco.
Le département américain de la justice a annoncé dans un communiqué la restitution au Nigeria de 23 millions de dollars détournés par l'ancien président Sani Abacha dans les années 90. Cet argent sera restitué dans le cadre d'un accord entre les États-Unis et le Nigeria, signé hier à Abuja par l'ambassadrice américaine Maribeth Leonard. Depuis 2014, la justice américaine a saisi 500 millions de dollars détournés par Abacha. Ces fonds, qui étaient placés dans plusieurs pays occidentaux, ont transité par le système financier américain. Au Mali, la Western Union a annoncé ce mercredi avoir réactivé les services de transfert d'argent avec les pays de la CEDEAO suite à la levée des sanctions économiques imposées par l'organisation ouest-africaine. Selon la Banque mondiale, les transferts de fonds reçus par le Mali en 2021 ont contribué à 5,5% du PIB du pays. En Afrique du Sud, l'inflation a atteint un nouveau record à 7,8% sur un an en juillet, son plus haut niveau depuis 13 ans, principalement dû à l'augmentation des prix de l'alimentation, des transports, de l'électricité et des médicaments, selon l'Agence nationale des statistiques. L'inflation annuelle pour les biens non durables est de 14%. Le pain a augmenté de 13,7% et coûte désormais 17,4 randes, soit plus d'un dollar. L'huile a augmenté de 36,2%. De grands syndicats ont appelé aujourd'hui à des manifestations contre la vie chère.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Nanit Sylvani Talani ce soir. Bonsoir Nanit.
UEFA, Karim Benzema et Beth Mead sont favoris pour décrocher jeudi des titres de meilleur joueur et meilleure joueuse de l'année.
Et oui, Benzema, époustouflant au Real Madrid jusqu'au sacre en Ligue des Champions, il devrait monter une première fois sur la scène jeudi lors d'une cérémonie à Istanbul en Turquie pour décrocher le premier grand titre individuel de sa carrière. Finaliste avec son coéquipier Thibaut Courtois et un autre Belge, le meneur de jeu de Manchester City, Kevin De Bruyne, Benzema ne laisse que peu d'espoir à ses concurrents tant il a accaparé la lumière cette saison. Avec 44 buts en 46 matchs, l'avant-centre français a porté le Real vers son 35e sacre en championnat et il a été l'un des héros de la Maison-Blanche lors des épiques retournements de situations successifs qui ont mené le Real vers sa 14e couronne en C1. 4 ans après Luka Modric, sacré en 2018, le titre de meilleur joueur de l'UEFA pourrait donc revenir à un joueur du Real.
Beth Mead a porté l'Angleterre vers la gloire à l'Euro.
Tout à fait, Eric. Cependant, la course au trophée féminin est un peu plus serrée. L'attaquante anglaise Beth Mead fait office de favorite, mais l'Espagnole Alexia Putellas, sacrée l'an dernier et en lice pour un doublé, pourrait venir jouer les troubles faites. Avec 6 buts et 4 passes décisives, Mead a été nommée meilleure joueuse et co-meilleure buteuse du championnat d'Europe, remporté par l'Angleterre à domicile cet été. Et Putellas a terminé meilleure marqueuse de la Ligue des Champions avec 11 buts, permettant au FC Barcelone d'atteindre la finale de l'édition, remportée finalement par l'Olympique Lyonnais.
Nanit, la finale de Ligue des Champions au stade Atatürk à Istanbul fait saliver les 32 clubs participant au tirage de la phase de poule demain jeudi en Turquie.
D'Istanbul à Istanbul, le Real Madrid et ses rivaux guettent leur sort. Sur les rives de la Corne d'Or, le tenant madrilène et ses principaux concurrents, le Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool ou le Bayern Munich, vont découvrir le début du parcours pouvant les mener à la finale de l'épreuve reine européenne. Un chemin semé d'embûches en cette saison, entrecoupé par le Mondial 2022 au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre. La phase de poule de la C1 sera condensée de début septembre à début novembre, contraignant la plupart des cadors à jouer tous les 3 jours. Et ce calendrier inhabituel repoussera la finale au 10 juin 2023.
Merci Nanit.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakidza avec vous, place au dossier du jour. Les Angolais ont voté ce mercredi pour les élections législatives qui décideront du prochain président. Le scrutin s'annonce serré entre le MPLA, parti au pouvoir depuis l'indépendance, en perte de vitesse mais toujours favori, et l'UNITA, le parti d'opposition. Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibourg a joint le professeur de sciences politiques et d'études africaines à l'Université de Genève, Didier Péclard.
Effectivement, ces élections s'annoncent très tendues et serrées parce que d'une part, on a un MPLA qui est au pouvoir depuis près d'un demi-siècle tout de même et qui, sur un fond de crise économique assez marquée depuis le milieu des années 2010, se trouve dans une position délicate avec une grande fatigue d'une partie importante de la population et notamment de la jeunesse urbaine, une grande fatigue et une volonté de changement dans un contexte où cette jeunesse ne voit pas de débouchés pour elle, pour son avenir. Donc le MPLA doit faire face à une forte contestation, je dirais, au niveau social. Il est aussi face à un parti d'opposition, le principal parti d'opposition, l'UNITA, qui est l'ancien mouvement rebelle qui a mené la guerre civile jusqu'en 2002, qui s'est profondément transformé depuis la fin de la guerre civile et qui, sous la direction de son nouveau leader, Adalberto Costa Junior, a pris une tournure, je dirais, plus urbaine et il parle, justement, il a réussi à trouver les moyens de parler à cette jeunesse marginalisée. Mais face à cela, le MPLA est une machine politique et électorale très bien huilée. Le MPLA contrôle tous les leviers du pouvoir économique, politique et institutionnel en Angola, même y compris les institutions qui gèrent les élections elles-mêmes, la Commission nationale pour les élections, le tribunal constitutionnel auprès duquel il y aura éventuellement des recours après l'annonce des résultats. Donc ce qui fait que c'est difficile d'imaginer que le MPLA ne puisse pas ressortir d'une façon ou d'une autre vainqueur de ces élections.
Alors, vous le dites, le pays est face à une inflation, beaucoup de chômage, le ras-le-bol est grandissant et pourtant, le pays est riche en ressources naturelles. Pourquoi est-il toujours plongé dans de si grandes difficultés économiques, selon vous ?
Ça, c'est l'immense contradiction de ce pays depuis de très nombreuses années. Effectivement, c'est un des principaux producteurs de pétrole en Afrique subsaharienne. Il y a d'autres richesses minérales qui sont très importantes, notamment dans le secteur des diamants. Mais il y a surtout une très forte concentration du pouvoir politique et une concentration peut-être encore plus forte du pouvoir économique à l'intérieur d'une élite qui représente un pourcentage très faible de la population. Une économie qui est tournée uniquement vers l'extérieur depuis très longtemps et qui est très peu tournée vers le développement de l'agriculture, par exemple de l'agriculture de subsistance au niveau local ou alors vers le développement d'une industrie. Et ce fait-là, en fait, renforce, si vous voulez, les inégalités entre cette petite minorité qui détient véritablement les moyens de production ou les moyens d'import-export, si vous voulez, et puis la grande majorité de la population qui doit se contenter des miettes, en fait, du gâteau national.
C'était Didier Péclard, auteur du livre « Les incertitudes de la nation en Angola, aux racines sociales de l'UNITA » aux éditions Cartala. Ce mercredi, quelques milliers de Sud-Africains ont manifesté dans plusieurs villes du pays à l'appel des deux principales unions syndicales du pays, la SAFTU et la COSATU. Ils protestaient contre l'augmentation du coût de la vie et demandaient que le gouvernement prenne des mesures urgentes. Le reportage de Patricia Huon depuis Johannesburg, en Afrique du Sud.
Vêtus de rouge, les manifestants marchent dans Pretoria, la capitale sud-africaine. Leur point de rassemblement, Union Buildings, le siège de la présidence, où ils remettront leur mémorandum. Mike Shingange est le vice-président de la Confédération des syndicats sud-africains, la COSATU.
Notre principale demande, c'est qu'ils interviennent sur l'inflation galopante. Ils doivent instaurer un bouclier tarifaire sur le carburant. Ils doivent faire en sorte que les gens aient accès à l'électricité et s'assurer que les emplois existants soient conservés. Ceci n'est que le début d'une action de masse. Et je veux préciser que tout ceci n'est pas uniquement la responsabilité du gouvernement, mais aussi du secteur privé.
L'inflation en Afrique du Sud a atteint un nouveau record le mois dernier, 7,8% sur un an, son plus haut niveau depuis 13 ans. Les prix de l'alimentation, des transports, de l'électricité, tout a augmenté et de nombreux Sud-Africains peinent de plus en plus à s'en sortir, comme Boussissi Wedouba, une institutrice venue manifester.
Nous sommes contre l'augmentation du prix de l'essence et nous demandons une revalorisation des salaires pour compenser les montants exorbitants que nous payons pour des produits de base, comme l'huile de cuisson, qui ont un impact sur la vie des Sud-Africains ordinaires.
Ils réclament une augmentation du salaire minimum, mais aussi plus d'emplois. Les chiffres du chômage en Afrique du Sud sont effrayants. Malgré une légère baisse au dernier trimestre, près d'un tiers des Sud-Africains en âge de travailler sont sans emploi. Parmi les jeunes de moins de 25 ans, ce sont trois quarts de ceux qui ont quitté l'école qui sont concernés. Bouziza Sekaya est activiste des droits humains.
Il y a des jeunes qui ont des diplômes. On nous dit, va à l'école, obtiens un diplôme, tu auras un bon travail. Mais ce n'est pas la réalité sur le terrain. Et les gens ne sont pas payés suffisamment. Dans un pays où les choses sont si chères, si vous gagnez 3500 rand par mois, c'est à peine assez pour la nourriture. C'est inacceptable.
Si ce mercredi, les syndicats n'ont pas réussi à mobiliser autant qu'ils l'espéraient, la grogne et la précarité sociale sont bien réelles. À Pretoria, Patricia Huron pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le phénomène de la dépigmentation artificielle de la peau ne finit pas d'embraser la population, surtout chez les jeunes qui pensent que s'éclaircir la peau permet de s'afficher ou se rendre belle. Des associations dont African Pride Ethnic descendent sur le terrain pour sensibiliser sur les inconvénients du phénomène. Une promenade dans l'univers de la dépigmentation artificielle de la peau à travers ce reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adande.
Ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes, qui décident de changer leur peau noire et ben pour une peau un peu plus claire. Pour ce fait, ça coûte cher et il y a aussi un prix à payer pour la santé. Au marché d'Antopa, le plus grand marché du Bénin, on y rencontre un peu de tout, mais surtout des hommes et femmes qui offrent des conseils de beauté à ceux qui le demandent. Ils vendent surtout des mélanges de savon et de pommade pour le corps, pour tout type de peau, mais beaucoup plus pour ceux qui veulent passer de la peau noire à la peau claire. C'est une très bonne affaire pour ces prétendus spécialistes qui font par jour 500 000 francs CFA de chiffre d'affaires. African Pride, noir et fier, ethnique, ont réussi à faire abandonner ce métier à beaucoup de jeunes.
La dépigmentation est une mauvaise pratique. La surveillance de la grossesse chez une femme dépigmentée est une grossesse pathologique.
Tout produit cosmétique aujourd'hui au Bénin depuis 2012 doit avoir une autorisation de commercialisation avant d'être commercialisé au Bénin.
Nathalie Midan est docteur en pharmacie. Elle se désole de la persistance du phénomène malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation.
Il y a plusieurs études qui ont été menées au Bénin sur des populations cibles et la pratique de la dépigmentation s'étend de 25 à 77% dans ces populations cibles. Donc le Bénin est vraiment touché par la dépigmentation et par tous les problèmes sur la santé que cette pratique entraîne.
Pour Badirou El Maksoudat, présidente de l'association Ewa Ethnique qui lutte contre la dépigmentation de la peau, le fait que les plus jeunes y trouvent un intérêt a beaucoup plus convaincu son association qu'il est indispensable de lutter contre ce phénomène.
On a décidé de lutter contre ce fléau parce que aujourd'hui on s'est aperçu que c'est devenu un fléau mondial et au Bénin en fait ça prend de plus en plus d'ampleur. On nous a interpellés par exemple par rapport aux étudiants ou aux élèves qui commencent à se dépigmenter très très tôt.
Cependant, toutes les femmes béninoises ne sont pas partisanes de cette pratique. Certaines estiment même qu'agresser sa peau à l'aide de produits artificiels n'est pas un signe de beauté. Bien au contraire, Black is beautiful, disait-on aux États-Unis pour inciter les Africains américains à être fiers d'eux-mêmes et n'avoir aucun complexe d'infériorité.
Les Blancs nous cherchent à se bronzer comme nous. Et pourquoi nous voulons maintenant changer notre peau? Notre peau est vraiment naturelle et il faut garder son teint.
Partie d'une peau noire pour devenir une blanche, pour ne s'arrêter qu'aux femmes. Ça, c'est une manière de défier la nature, de défier l'autorité de Dieu. Ce n'est pas une référence que d'avoir la peau claire, mais la référence, c'est d'être propre.
Alors que la société béninoise a encore du mal à accepter la pratique au niveau des femmes, elle s'est heurtée au goût prononcé des hommes pour la chose. Les hommes le font, et parfois mieux que les femmes. Pour Nathalie Migan, docteur en pharmacie, les conséquences sont parfois irréversibles, que l'on soit homme ou femme.
Il y a des conséquences dermatologiques et aussi systémiques, c'est-à-dire générales. Donc les personnes qui se dépigmentent ont souvent des problèmes de peau qui sont graves, comme les infections cutanées, car la peau est diminuée et n'a plus les défenses nécessaires pour lutter contre les agents externes comme les bactéries, les champignons, etc. Et aussi des conséquences générales comme le diabète, l'hypertension, l'intoxication du nouveau-né chez les femmes qui sont enceintes et qui se dépigmentent, des problèmes d'infertilité également et des cancers de la peau depuis quelques années qui ont été découverts également.
La dépigmentation est un phénomène commun dans nombre de pays africains. C'est un mal profond, une inversion pour ne pas dire perversion des canons de beauté. Au Bénin, elle a pris une allure vertigineuse au mépris des conséquences irréversibles. De Cotonou, Zinette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Un an après, la question reste posée. Le retrait américain d'Afghanistan était-il la bonne décision? Non, selon deux généraux à la retraite, lesquels étaient chargés de superviser cette guerre pour les États-Unis. Carla Babb, la correspondante de la VOA au Pentagone, s'est entretenue exclusivement avec eux. Son reportage est relaté par Jacques Aristide.
En août de l'année dernière, après la chute de Kaboul aux mains des talibans, c'était le chaos à l'aéroport de la capitale afghane, avec une évacuation dans le désordre total. Un an plus tard, deux anciens chefs du commandement central américain font part de ce qui s'est mal passé en Afghanistan. Le général à la retraite, Frank McKenzie, ancien commandant du CENTCOM.
Ma conviction est que les événements tragiques d'août dernier ont principalement été provoqués par notre décision de quitter complètement l'Afghanistan. Et ces décisions incombent à deux présidences.
Un accord paraphé entre l'administration de Donald Trump et les talibans prévoyait le retrait de toutes les troupes américaines en mai 2021. L'équipe de Joe Biden, après son arrivée à la Maison-Blanche, devait prolonger la date au 31 août. Le général à la retraite, Joseph Votel, ancien commandant du CENTCOM.
Je n'accepte tout simplement pas l'idée que nous devions retirer tout le monde.
Pour les deux généraux à la retraite, il aurait fallu maintenir au moins 2500 militaires américains aux côtés de l'armée afghane.
Les forces afghanes se sont effondrées et ont perdu la volonté de se battre. 2500 soldats nous auraient donné une petite série de bases très solides en Afghanistan, dont la base aérienne des Bagram. Cela nous aurait permis de continuer à soutenir le système logistique afghan. Cela nous aurait donné la capacité à continuer de soutenir l'armée de l'air afghane sur le terrain.
Le 31 août 2021, le président Joe Biden a défendu le retrait américain.
Je n'allais pas prolonger cette sainte éternelle guerre et non plus ce sainte éternel retrait. À ceux qui demandent une troisième décennie de guerre en Afghanistan, quel est l'intérêt national vital? À mon avis, nous n'en avons qu'un, celui de nous assurer que l'Afghanistan ne pourra jamais être utilisé pour lancer une attaque contre notre nation.
Le locataire de la Maison-Blanche a récemment pris pour preuve la frappe américaine qui a tué Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda.
J'ai promis au peuple américain que nous continuerons à mener des opérations antiterroristes efficaces en Afghanistan et au-delà. C'est exactement ce que nous avons fait.
Quant aux deux généraux à la retraite, ils disent craindre pour la sécurité des Américains par rapport aux groupes terroristes en Afghanistan.
Je ne pense pas que nous soyons plus en sécurité à la suite de notre retrait d'Afghanistan.
Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur les organisations terroristes laissées sur le terrain. Nous avons du travail à faire. Je ne pense pas que nous soyons plus stables ou plus en sécurité. Je pense que l'Afghanistan est plus instable et par conséquent, cette région du monde est plus instable.
Lors de l'un des derniers jours de l'évacuation américaine, 13 militaires américains et au moins 170 personnes ont été tuées dans un attentat du groupe État islamique. Ce fut le jour le plus meurtrier pour les troupes américaines en Afghanistan depuis une décennie. Plus de 120 000 personnes ont été évacuées, mais des dizaines de milliers d'alliés américains ont été laissés derrière.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Gisèle Morissin, Georges Léonard Sagnot et Michel Joseph pour la réalisation de cette édition. Merci également à l'équipe de rédaction. Au micro, Eric Manirakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, Votre site internet voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.